VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. 7 représentants syndicaux des médecins kényans ont été écroués aujourd'hui après avoir été condamnés à un mois de prison pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du Kenya depuis 10 semaines. Les syndicalistes avaient été condamnés à un mois de prison avec sursis à la mi-janvier par la juge Hélène Wasilva qui leur avait donné 2 semaines pour annoncer la fin de la grève, faute de quoi la peine serait appliquée. La même juge a ordonné aujourd'hui leur incarcération, estimant qu'il n'y avait aucun motif de revenir sur son jugement précédent. Au Mali, fin de la grève illimitée des magistrats suite aux travaux de la commission de conciliation qui a permis un accord entre le gouvernement et les magistrats. Siaka Koulibaly, vice-président du syndicat libre de la magistrature, fait le point sur les résultats des négociations avec les autorités.
Un accord partiel, premièrement sur le salaire, un accord sur l'indemnité de judicature, un accord sur l'indemnité de logement, un désaccord total sur l'indemnité de mouture. L'accord est entier entre le gouvernement et nous sur toutes les questions d'ordre institutionnel. La signature du PV de conciliation, à notre sens, n'est qu'une formalité.
Le magistrat malien Siaka Koulibaly. En Côte d'Ivoire, 6 journalistes, dont 3 patrons de presse, ont été interpellés et incarcérés dimanche dans un camp de gendarmerie d'Abidjan après la couverture de la récente mutinerie de soldats, selon le procureur. Un communiqué du procureur de la République, lu à la télévision nationale, fait état de divulgation de fausses informations de nature à inciter les soldats à la révolte. Ils sont donc actuellement sous les verrous Vamara Koulibaly, Yacouba Gbané, Franck Bamba Mamadou, respectivement directeur des quotidiens L'Inter, Soir Info, Le Temps et Notre Voix. Ces patrons de presse sont détenus en même temps que leurs collaborateurs Amadou Ziaou, Jean-Bédel Niago et Ferdinand Bailly.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Centrafrique, la force de l'ONU a dû intervenir samedi avec un hélicoptère pour stopper la progression vers la ville de Bambari des combattants du FPRC de Noureddine Adam. Depuis une semaine au moins, 20 personnes ont été tuées dans des combats entre 2 factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. Le point sur la situation à Bambari avec Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA à Bangui.
La situation à Bambari est calme. La population elle va casser ses occupations, même s'il y a une certaine tension. Par contre, il y a eu cette opération menée par notre force près de la localité d'Ipi, à quelques 65-70 kilomètres à l'est de Bambari. Notre force a dû intervenir suite à la violation par le FPRC et sa coalition d'une ligne rouge qui avait été établi, et nous avons estimé que cette violation représentait une menace sur la ville de Bambari. C'était une avancée sur la ville d'Ipi où se trouvent des éléments de l'UPC. Donc c'était une tentative de la coalition du FPRC de Monsieur Noureddine Adam vers cette ville, d'où notre intervention. Des combats ont eu lieu ces dernières semaines dans certaines localités entre Bria et Ipi. Il y a eu il y a quelques semaines des combats à Bakar. Nous intervenons de manière impartiale pour protéger les populations de Bambari.
Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique. Au Congo-Brazzaville, les formations politiques de la majorité et de l'opposition ont accueilli favorablement la loi sur le financement des partis. Mais quelques leaders de l'opposition estiment que la régularité des scrutins permettra d'identifier les vrais partis qui doivent bénéficier de l'argent public. Selon notre correspondant sur place, Ngoula Ngoussou, l'État a promis de financer les partis politiques à hauteur de 1 milliard de francs CFA au titre de l'année 2017.
Dans les rues de Brazzaville, les Congolais estiment que ces financements vont contribuer à l'efficacité de l'action des partis politiques. Nombreux, en effet, ne fonctionnent que grâce à l'argent qu'apporte leur président.
Je pense que le financement de la démocratie, c'est une très bonne chose. C'est ce que d'ailleurs tous les partis souhaitaient depuis, d'autant plus qu'il existait déjà au moins 9 qui, déjà de façon officieuse, bénéficiaient de cette subvention de l'État.
L'argent qui sera remis aux partis politiques, c'est pour la bonne marche du pays. Non, c'est pas pour faire la pagaille.
Pour le président du parti CEDER, Bonaventure Bounzika, il ne s'agit pas de se réjouir comme si l'État avait distribué de l'argent au parti.
Il faut désenchanter, il n'y a pas à fêter parce qu'il ne s'agit pas d'un don. En réalité, il ne suffit pas d'avoir un parti politique pour prétendre bénéficier du financement de l'État. Il faut remplir un certain nombre de critères. Il faut avoir de l'ancrage dans les populations, mais le seul moyen pour le vérifier, c'est d'avoir des élus au niveau national et au niveau local.
Armand Pourou, un autre chef de parti, la DDC, se résout déjà à s'appliquer à la nouvelle réglementation.
Les critères ont été déterminés, maintenant c'est à nous de travailler pour pouvoir respecter les critères, c'est-à-dire avoir ne fût-ce qu'un député ou six conseillers et avoir un siège à vous-même, acheté, pas en location. Et je crois que déjà au niveau du siège, la DDC remplit les critères, nous sommes reconnus par l'administration. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'avoir les députés et les conseillers à l'Assemblée.
Mais Clément Mirassa voit différemment les choses. Pour lui, la mauvaise organisation des élections fausse même les partis bénéficiaires.
Du financement des partis ne nous gêne pas. Parce qu'en réalité, la démocratie a besoin de l'argent. Et si l'État peut intervenir pour que les partis évoluent dans un cadre bien défini, c'est une excellente chose. Mais quel parti doit être financé? Dans un contexte où les élections posent beaucoup de problèmes, aussi longtemps que les Congolais vont considérer qu'en réalité, au Congo, il ne s'agit pas d'élections, mais de nominations, et que l'élection n'est qu'une mascarade, nécessairement, ça a un impact sur le problème du financement des partis. Donc, il est bon que le problème soit résolu dès le départ, à travers les résultats des élections, libres, démocratique et transparent.
À l'UPADS, la principale formation de l'opposition, cette loi ne crée pas l'événement. Ce parti bénéficie en effet depuis 2014 des financements publics, mais cumule déjà quelques 9 trimestres d'impayés. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Soudan, du matériel hautement explosif servant à la fabrication de bombes a été découvert dimanche par les services de sécurité soudanais dans un appartement de Khartoum après une explosion dans la nuit ayant fait un blessé. L'enquête a révélé qu'un homme a été blessé dans l'explosion alors qu'il montait les explosifs et selon les autorités, le blessé est en fuite et la police est à sa recherche ainsi que d'autres personnes. En Tunisie, Amnesty International s'inquiète d'une recrudescence importante de méthodes brutales du passé selon un rapport publié aujourd'hui. En réaction aux attaques terroristes, les autorités tunisiennes ont pris un ensemble de mesures sécuritaires, dont l'état d'urgence, en recourant de plus en plus aux lois d'exception et aux méthodes brutales du passé. La Tunisie met en péril les avancées obtenues depuis la révolution de 2011, prévient Amnesty International dans un rapport sur les violations des droits humains sous l'état d'urgence. Le gouvernement libyen d'Union nationale, GNA, a dénoncé dimanche dans un communiqué l'annonce cette semaine à Tripoli de la formation d'une coalition de groupes armés baptisée Garde nationale, y voyant une tentative de créer un organe de sécurité parallèle. Jeudi, des groupes armés venus essentiellement de la ville de Misrata, dans l'ouest, ont annoncé la création d'une garde nationale libyenne qui aurait pour mission, selon eux, de combattre le groupe État islamique, de sécuriser les institutions de l'État, les missions diplomatiques et les ressortissants étrangers. Ces groupes n'avaient pas précisé si cette garde nationale appuyait ou pas le GNA, seul exécutif reconnu et soutenu par l'ONU et les pays occidentaux.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Direction le Yémen, 20 rebelles et soldats pro-gouvernementaux ont été tués dans de nouveaux combats dans l'ouest du Yémen, où les forces loyalistes tentent d'avancer vers le nord en direction de la ville portuaire de Hodeida, ont indiqué aujourd'hui des sources militaires et médicales. Les combats des dernières 24 heures se sont déroulés au nord de la ville de Moka, totalement reprise par les forces pro-gouvernementales vendredi, ont précisé ces mêmes sources. Donald Trump, ici aux États-Unis, reçoit Justin Trudeau aujourd'hui. Une rencontre délicate pour le premier ministre canadien qui espère esquisser un compromis sur le libre-échange, mais aussi faire entendre sa différence à immigration en tête. Troisième dirigeant étranger reçu par le nouveau président républicain après la Britannique Theresa May et le Japonais Shinzo Abe. M. Trudeau, a promis de parler à la fois avec franchise et respect aux locataires de la Maison-Blanche. Enfin, la chanteuse britannique Adele a remporté dimanche les prix du meilleur album de la chanson et de l'enregistrement de l'année lors de la 59e cérémonie des Grammy Awards, le grand rendez-vous de l'industrie musicale aux États-Unis. Elle a décroché 2 autres récompenses, empochant ainsi les 5 statuettes pour lesquelles elle était en lice, devançant largement Beyoncé, présentée comme sa rivale d'un soir, récompensée à 2 reprises pour 9 nominations. La soirée a également été marquée par les hommages rendus à Prince et George Michael et par le tour politique pris par la cérémonie, la première depuis l'investiture de Donald Trump. Jean-Roger Billon, dans 50 minutes, un nouveau journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.